Cours de philosophie éthique de Père Marie-Dominique Philippe, le 5 novembre 1999, à Saint-Jolain.
Il faut bien distinguer ces trois niveaux d'éthique qui sont commandés par la finalité. Première découverte de la finalité, l'amour d'amitié. Et c'est en ce sens-là que l'amour d'amitié est à la fois le sommet de l'éthique fondamentalement humaine et que l'amour d'amitié est le fondement de toute cette éthique. Qui est, voyez, j'aime pas dire sans Dieu, sans la découverte de Dieu, pour nous. Il y a une éthique, c'est pour ça que j'ai dit proprement humaine et fondamentalement humaine, parce que même si on n'a pas découvert l'existence de Dieu, il y a une éthique entre hommes. Et cette éthique entre hommes se fonde sur l'amour d'amitié. Il y a un lien entre les hommes. Et non pas dans sur la justice. Oui, c'est au fond l'erreur de Platon. L'aspect politique se fonde sur la justice, mais pas l'éthique. La justice fonde la politique, pas l'amour d'amitié. Parce que la politique ne me donne pas une nouvelle finalité. Je n'ai pas une finalité éthique, politique, je veux dire. C'est le bien commun et le fruit de la communauté, il s'impose à la communauté, mais il n'est pas une véritable fin, puisqu'il est le fruit. Je respecte le bien commun, je dois tout faire pour le faire grandir. Mais je ne peux pas dire qu'il me donne une fin. C'est très important, ça, je crois, de comprendre ça. Quand je découvre l'existence de Dieu à partir de l'amour d'amitié, quand je découvre l'existence d'un être premier qui est mon Père, le Père de mon âme, je découvre une nouvelle finalité. L'amour d'amitié que j'ai envers telle personne doit être comme une disposition pour la découverte de Dieu et aussi il doit se soumettre d'une manière très particulière à cette découverte nouvelle de ma finalité qui est Dieu. En découvrant l'existence de Dieu, je découvre une nouvelle finalité pour moi-même. C'est ça que nous allons tout de suite voir. Et une troisième éthique, l'éthique chrétienne. Alors, cette éthique chrétienne présuppose un nouveau don de Dieu, la grâce. Cette éthique chrétienne assume pleinement les deux niveaux d'éthique précédents. Ne les détruis pas. La grâce ne détruit pas la nature. Et donc, je garde et je conserve ces deux éthiques, l'éthique fondamentalement humaine et l'éthique religieuse. C'est très important de comprendre ces trois niveaux. Et lorsque nous, point de vue politique, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle position, telle ou telle loi, nous devons préciser, est-ce au nom de la vie chrétienne, est-ce au nom du Dieu créateur, est-ce au nom de l'amour d'amitié? Il y a toujours ces trois aspects, et ça c'est très important de ne pas confondre, parce qu'il y a des quantités, vous voyez, de philosophes chrétiens qui confondent. Alors tout de suite, c'est au nom de leur vie chrétienne qu'ils s'adressent à n'importe qui. C'est pas juste. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui ne croit pas dans le Christ d'observer les béatitudes que nous donne Jésus. Je peux, au contraire, en tant qu'ils sont des hommes, leur rappeler une éthique religieuse qu'ils doivent respecter. Et par l'éthique religieuse, ils doivent respecter l'éthique chrétienne. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est très important de bien préciser. L'avortement, vous le précisez au plan chrétien, au plan religieux, au plan humain. Et vous cherchez les raisons propres qui fait que je condamne l'avortement au nom chrétien, au nom de ma vie chrétienne, au nom de ma vie religieuse, au nom de ma vie humaine. Autrement, vos arguments ne portent pas. Et je crois que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui, au plan politique, la plupart du temps, reste indifférent à l'aspect religieux. Il ne devrait pas, hein. Le point de vue politique devrait laisser la liberté religieuse. Parce que si on ne laisse pas la liberté religieuse, on ampute le citoyen humain. Et tôt ou tard, cette politique sombrera. Et faut être très net là-dessus. Parce que l'attitude religieuse est humaine. Donc si elle est humaine, l'homme politique doit la respecter. L'homme politique doit respecter le bien commun humain, c'est-à-dire tout ce qui permet le développement de tout ce qui est, de tout ce qui est humain. Or, la personne humaine a comme septième dimension l'attitude religieuse, en tant que personne humaine. Il y a sept dimensions. Et l'homme politique doit respecter ces sept dimensions. Et ça, je crois que c'est très important de bien saisir ça, de bien saisir que le point de vue religieux n'est pas confessionnel, c'est-à-dire qu'il est humain. L'homme, en tant qu'homme, peut découvrir l'existence de Dieu. Et il peut découvrir qu'il y avait une première recherche. Et cette recherche de l'éthique religieuse est quelque chose de fondamental. Alors évidemment, vous voyez bien que affirmer cela, c'est impliquer que l'homme peut par lui-même affirmer l'existence d'un Dieu créateur. si l'homme ne pouvait pas par lui-même affirmer l'existence d'un Dieu créateur, il n'y aurait pas d'éthique philosophique religieuse. Parce que ça dépendrait d'une tradition religieuse, ça dépendrait donc de quelque chose qui est radicalement humain et qui n'est pas philosophique. Pour qu'il y ait une éthique religieuse, philosophique, il faut nécessairement comprendre que la découverte de l'existence de Dieu peut se faire et doit se faire dans une perspective purement philosophique, purement humaine. Bon, l'intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu. Non seulement l'intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu, mais ayant découvert l'existence d'un être premier, qu'on appelle Dieu, que les traditions religieuses appellent Dieu, l'intelligence humaine est capable de découvrir au plan métaphysique l'existence de la création, l'existence du Créateur. Dès que je découvre l'existence du Créateur, je découvre l'exigence de rendre compte. L'exigence de l'adoration. C'est ça, ce point-là, que nous allons tout de suite voir. Mais ne télescopez pas les différents métaxus. C'est important au plan philosophique. Comprendre que la métaphysique ne peut pas s'achever sur une analyse scientifique de ce qui est en tant qu'être. Quand je fais cette analyse de ce qui est en tant qu'être, je me pose la question, nécessairement, existe-t-il un être premier ? Et j'essaie de comprendre comment mon intelligence peut découvrir cet être premier. Ce qu'on appelle les voies d'accès à l'existence de l'être premier. Que les traditions religieuses appellent Dieu. Autrement dit, j'essaie de comprendre comment, quand les traditions religieuses parlent de Dieu, mon intelligence peut montrer que cette affirmation est légitime, philosophiquement parlant. Que ce n'est pas un mythe. Et là, la parole de Heidegger est intéressante. Quand il dit que le philosophe doit distinguer le moutos du logos. Parce que les traditions religieuses, quand elles parlent de l'origine de l'homme, quand elles parlent de la finalité de l'homme, très souvent prennent un langage symbolique et mythique. Ricoeur aime de faire la distinction entre le langage symbolique et le langage mythique. Il fait cette distinction tout simplement de cette manière. Et il aime de faire cette distinction parce que le mythe, le langage symbolique, donc le mythe emploie un langage symbolique, mais le mythe ajoute quelque chose au symbole. Il ajoute un récit. L'origine de l'homme. Il ajoute ce vers quoi tend l'homme, sa finalité. Qu'est-ce qui finalise l'homme ? Alors on raconte toute une histoire. Et à ce moment-là, il y a un mythe. Et dans Platon, il y a des mythes. Dans la philosophie de Platon, Platon invente des mythes. Et qu'est-ce que c'est que ces mythes ? c'est toujours un langage symbolique qui implique un récit à propos de l'origine de l'homme, à propos de la fin de l'homme. C'est toujours par rapport à l'homme, hein, les récits mythiques. Et on invente, par exemple, comment l'homme a inventé l'art. Il a volé aux dieux le feu, quand les dieux dormaient bien. Alors il a volé le feu dans sa poche. Il a volé le feu, le mythe de Prométhée, qui a été le mythe que Marx a fait pour sa licence. C'est intéressant de voir que toute la doctrine de Marx se fonde d'une certaine manière sur ce mythe. Alors, est-ce un mythe? Est-ce un logos? Logos, c'est la raison. C'est ce que l'intelligence humaine est capable de saisir. Tandis que le mythe fait partie des choses que nous ne pouvons pas prouver, mais que nous sommes à la recherche. Nous sommes à la recherche de comment l'homme est apparu sur la terre. Hein ? Vous voyez, le mythe regarde la manière d'exister. Le symbole peut regarder la finalité. Toujours très curieux, ça. Le symbole est plus radical que le mythe. Toutes les réalités que je ne peux pas expérimenter et exprimer d'une manière précise et philosophique, j'invente un symbole. Et quand j'ordonne les différents symboles pour essayer de voir l'origine ou la fin, alors j'ai un mythe. Le mythe présuppose le symbole et organise le symbole. Alors j'ai devant un mythe. Je crois que ça c'est juste. Ricoeur dit ça de façon astucieuse. Et nous pouvons très bien préciser la pensée de Ricoeur en voyant bien que le mythe s'invente à partir d'un certain amour. C'est une pensée affective, le mythe, pensée poétique. Ce n'est pas une pensée rigoureuse. Quand je ne connais pas le logos du point de départ ou le logos de la fin, j'invente une pensée mythique, une pensée symbolique. Et très vite, cette pensée symbolique, je l'organise en mythe. Le mythe de Prométhée. Regardez comment l'homme est devenu un artisan. C'est la place du forgeron, ça. Quelle est l'origine du forgeron? Il est évident que le forgeron a besoin du feu. Le peintre en a moins besoin, sauf pour se chauffer. Autrement, il en a moins besoin. Son art se fait indépendamment du feu, tandis que le forgeron se sert du feu. Si le forgeron n'a pas de feu, il devient un charpentier. C'est sûr. C'est le feu qui fait le changement. On domine le feu. On s'en sert. On l'utilise. Pour faire que une matière qui résiste devient souple. Il y a la joie du forgeron. Alors, prenons que l'existence de Dieu, d'un être premier, créateur, c'est le logos qui me dit ça. Un logos de sagesse. Pas un logos de science moderne ou de mathématiques. Un logos de sagesse. Métaphysique. Alors, une fois que j'ai découvert l'existence d'un être premier, qui s'appelle Dieu, qu'on appelle Dieu selon les traditions religieuses, immédiatement, à l'égard de cet être premier que je découvre comme mon créateur, immédiatement, je réponds à la générosité infinie de Dieu qui a créé mon âme. Je réponds à ma manière de remercier ce Dieu qui a créé mon âme. Et je le remercie en l'adorant. L'acte d'adoration est un acte éthique. Ah, attention, éthique religieuse, morale religieuse. C'est un acte pratique, commandé par la prudence. Mais une prudence qui tend vers une sagesse, qui s'ouvre à la sagesse. C'est une prudence parce que c'est un acte que je fais volontairement et que je fais pour répondre à la gratuité absolue de Dieu, créant mon âme, et que je fais pour répondre à cette gratuité. À la gratuité de Dieu, il y a une réponse humaine qui est l'adoration. Si je veux saisir ce qu'est l'adoration, il faut toujours regarder cette gratuité absolue de Dieu qui crée mon âme. Et voyez, l'astuce du démon, c'est de supprimer la possibilité de parler de l'âme. Si je ne découvre plus qu'il y a en moi une âme spirituelle qui ne provient pas de mes parents et qui provient d'ailleurs, du Dieu créateur, de Dieu Père, je ne peux plus adorer parce que mon corps n'est pas créé par Dieu directement. Mon corps humain, en tant qu'humain, est humain grâce à l'âme. Et comme l'âme est créée par Dieu, par mon âme, mon corps est créé par Dieu. Mais il y a une médiation. Ce qui fait que le corps est lié à l'adoration, mais ce n'est pas le corps qui commande l'adoration. C'est très important de comprendre ça. Mais mon corps est lié à l'adoration. Pourquoi ? Parce que mon âme est créée par Dieu dans mon corps. Et donc, le corps n'est pas indifférent à l'origine de mon âme. J'ai une vision différente du corps si j'ai découvert l'acte créateur de Dieu que si je n'ai pas découvert l'acte créateur de Dieu. Et que je veux découvrir mon corps uniquement d'une manière scientifique. Découvrir mon corps d'une manière scientifique, moderne, c'est le mesurer. C'est étudier toutes les réactions du corps. C'est étudier tout ce qui est capable d'être mesuré et connu scientifiquement. Non pas du tout connu philosophiquement. Vous voyez, là, il y a une question très très importante à comprendre. Que le corps, je peux le connaître scientifiquement selon la science biologique. Pour la science biologique, l'âme n'intervient pas. Pour la science biologique, Dieu n'intervient pas. C'est le corps humain que j'étudie parallèlement au corps des animaux. Je vois que l'homme a une stature différente qui modifie tout. Il se tient debout. Le singe aussi, de temps en temps, se tient debout. Le cochon, c'est plus difficile. Mais le singe se tient de temps en temps debout, mais il retombe sur ses pattes. Hein. C'est le cas de le dire. Parce qu'il en a quatre. Il y en a deux qui servent un peu de main. Mais c'est difficile de serrer la main à un singe. Ça, c'est pas très agréable, ça. Il a une main peu évoluée. Il reste la main du singe. Alors il prend un bâton, pour taper. Il prend le bâton. Et des caresses. C'est des caresses de singe. Pas très agréable. Parce que il n'a pas une peau assez fine. C'est curieux, ça. Hein, la première distinction du corps humain, il se tient debout. Alors, le corps humain peut être étudié matériellement. J'étudie tous ses organes. Le corps humain peut être étudié philosophiquement. Alors à ce moment-là, il est la condition nécessaire de l'âme. Et il commande à tout le conditionnement de l'âme. Il intervient à ce niveau-là. Et non pas comme un principe de vie. Le corps n'est pas principe de vie. Il est un instrument conjoint, puisque je n'ai jamais vu mon âme humaine séparée de mon corps. Mais voyez bien, il y a la mort. La mort réduit le corps à pas grand-chose, à un cadavre. Et le cadavre, Aristote dit qu'il était équivoquement homme. C'est le cadavre d'un homme. Et c'est vrai, c'est le cadavre d'un homme. Je le respecte parce qu'il est le cadavre d'un homme. En lui-même, il ne vit plus. Il vit par l'âme. Alors, le corps intervient dans l'adoration et je m'en sers dans l'adoration, mais le corps n'est pas principe de l'adoration. Je ne connais pas l'adoration par le corps. Je connais la manifestation de l'adoration. Je vois quelqu'un qui prie, qui adore. Alors il y a différentes manières d'adorer, différentes manifestations d'adoration par le corps, qui relèvent d'usages, de traditions. Mais le corps ne me fait pas comprendre ce qu'est l'adoration. Il manifeste. Qu'est-ce qui fait comprendre l'adoration ? C'est mon âme spirituelle qui reconnaît qu'elle est en présence de celui qui a été père de mon âme spirituelle, de celui qui est père, pas seulement de celui qui a été, mais qui est père. Actuellement, il crée mon âme. Père de cette vie spirituelle. Et qui reconnaît publiquement, aux yeux de tous, communautairement. Oui, à cause du corps, l'adoration devient commune. Et que je ne peux pas me soustraire de ça. À cause du corps, mon adoration devient commune et demande d'être commune. Et demande de se manifester d'une façon commune. Et personne n'a le droit de m'interdire ça. Un chef d'État ne peut pas interdire une communauté d'adorer. Il peut demander que l'adoration se fasse dans un lieu réservé, dans un temple. Il peut le demander, ça. Et non pas sur la place de la Concorde. Et non pas sur la place publique. Il peut dire ça, ça va déranger l'ordre civique. Mais il n'a pas le droit de l'interdire. C'est extrêmement précis que c'est l'âme qui adore. C'est un acte humain. Et c'est l'acte humain le plus radical, le plus foncier. Interdire l'adoration à l'homme est source du plus terrible refoulement. C'est source d'angoisse. Parce que l'âme, en reconnaissant que Dieu est le Créateur, se livre à l'adoration, se livre à ce commandement précis qui s'impose à lui. Parce qu'il a découvert que Dieu actuellement est créateur de l'âme. Et par l'âme créateur, et par l'âme maître, seigneur de mon corps, puisque mon corps est humain grâce à mon âme. Et donc, en tant que corps humain, il doit accompagner, manifester cette prière intérieure de l'adoration. À partir de cet acte humain libre de l'adoration, il y a une nouvelle éthique qui va se faire pour étudier cet acte. Donc la première chose que doit faire l'éthique, c'est de reconnaître. Et il faut être attentif à cela. Et qu'à partir de là, puisque le corps est impliqué dans toute communauté humaine, et que toute communauté humaine doit faire attention au corps, le corps doit respecter l'adoration et respecter la vie commune.